Radio Anthropocène. À l'écoute du changement global.
Bonjour et bienvenue dans ce book club du festival à l'école de l'Anthropocène, en public depuis le café Pilot au collège Truffaut dans le premier à Lyon, et en direct, ou plus tard en replay, sur Radio Anthropocène. Je suis Bérénice Gagne, et pour ce premier book club du festival, je suis heureuse de recevoir la philosophe Corinne Pelluchon, qui vient nous parler de son dernier ouvrage, L'espérance ou la traversée de l'impossible, paru chez Rivage en 2023. Bonjour Corinne Pelluchon.
Bonjour Bérénice.
Corinne Pelluchon, vous êtes professeure de philosophie à l'université Gustave Eiffel, spécialiste de philosophie morale et politique et d'éthique appliquée. On vous connaît particulièrement pour vos travaux sur la condition animale, mais dans cet ouvrage, vous réussissez le tour de force de parler d'espérance et de changement climatique. D'aucuns y verraient un oxymore. Merci de passer nous voir à Radio Anthropocène et surtout merci de nous offrir l'espérance pour inaugurer ce festival et le printemps. Si vous le voulez bien, Corinne Pelluchon, commençons par vous écouter dans le texte avec la lecture d'un court extrait de votre ouvrage « L'espérance ou la traversée de l'impossible ». Cette puissance de vie, célébrée par les artistes qui, par leur travail sur le langage, atteignent les différentes couches du psychisme et établissent un point de contact entre le moi et le monde, entre notre chair et celle du monde, nous en faisons l'expérience dans le dépouillement qui suit le plus profond abattement. L'individu, abandonnant toute trace de volonté, tout désir de maîtrise, et ne cherchant plus à expliquer ni à comprendre ce qui lui arrive, est visité par la vie et ressent une immense douceur. L'espérance s'enracine dans ce qui nous rattache à la vie, mais elle émerge sans que nous l'ayons programmée et suppose une reddition. Celle-ci partage avec le renoncement l'idée d'un abandon. On n'attend plus que le monde ou les autres répondent à nos désirs, puisqu'on les dépose. Et ce geste, qui dissipe tout ressentiment et toute haine, fait revenir à la vie, éprouver son mouvement, son ouverture. Ainsi, il y a au fond de cette passivité ultime qu'est la souffrance, la possibilité d'un abandon qui délivre de soi et fait que, ne luttant plus contre l'adversité, le principe de vie se manifeste. La vie qui nous anime encore, la vie qui fait que notre corps est à une certaine température, que nos organes fonctionnent, la vie qui nous rapproche de l'animal et dont nous provenons quand nous sommes baignés dans le liquide amniotique, reflue à la surface. Elle submerge la conscience au moment où celle-ci cesse d'être esprit critique, volonté d'en découdre. À la plainte qui est un discours du manque, à la récrimination et à la revendication succède la confiance, même ténue en la vie, saisie dans son immanence. Sa puissance de transformation, son essence qui est métamorphose, font basculer le désespéré qui se retrouve, comme par surprise, éjecté de sa prison, seul, incertain, sans perspective précise, mais entrevoyant la possibilité d'un avenir. Ce qui m'a frappé en vous lisant, Corinne Pelluchon, c'est que pour un livre sur l'espérance, il y ait beaucoup question de désespoir. Vous suivez Kierkegaard dans ce sens pour présupposer une forme d'universalité du désespoir. Vous écrivez « Tout le monde est désespéré ». La dépression rôde au fil des pages et dès l'avant-propos, vous en évoquez une expérience personnelle. Le désespoir est-il un passage obligé pour atteindre l'espérance ?
Alors, je ne sais pas si on peut parler de passage obligé au sens où il y aurait comme une méthode. Néanmoins, ce que j'ai voulu dire, c'est que paradoxalement, l'espérance suppose d'en finir avec la toute-puissance, la volonté de maîtrise et le défi ou la crispation sur soi. Et il faut, je crois, d'emblée distinguer l'espérance de l'optimisme et de l'espoir pour comprendre ce paradoxe qui ferait qu'au moment des crises énormes que nous vivons et de la possibilité d'un effondrement, on puisse justement parler de l'espérance, parce que ça ne va pas du tout de soi. Et tout cela sans effacer la dialectique destructrice du désespoir. Alors, je commencerai donc par distinguer l'espérance, qui est une vertu théologale dans le christianisme, à côté de la foi et de la charité, et je la distinguerai de l'espoir. Premièrement, l'espoir est le désir de voir ses vœux personnels, ses souhaits personnels se réaliser dans un temps assez court. C'est quelque chose qui me concerne moi seule. C'est souvent une illusion, ou en tout cas une projection, et pourquoi pas. L'espérance, elle, vise quelque chose au-delà de moi-même. Elle a un rapport à l'histoire. Deuxièmement, et ça c'est très important pour la question que vous m'avez posée, l'espérance suppose la prise de conscience de la gravité de la situation. Paradoxalement, elle suppose, ou en tout cas si elle naît, l'espérance, elle suppose, contrairement à l'optimisme, de ne pas imaginer qu'on a toutes les solutions à nos problèmes et même de voir en face la difficulté. Elle est donc toujours en dépit d'eux. Et moi, ma définition précise de l'espérance, c'est que c'est la capacité à déchiffrer en dépit du chaos et de la gravité de la situation, en dépit aussi de la conscience aiguë de sa faillibilité, c'est la capacité, en dépit de tout cela, à déchiffrer les signes avant-coureurs dans la société de quelque chose qui pourrait ouvrir le possible et donc nous permettre de reconfigurer l'avenir, voire d'avoir confiance en lui. Donc on voit que c'est une attente, un rapport au temps, mais qui me dépasse, hein. Mais c'est aussi la capacité à, non pas prévoir quelque chose de déterminé, mais anticiper, en tout cas sentir, au plein milieu du chaos, quelque chose qui pourrait ouvrir l'avenir, même si ce n'est pas spectaculaire et même s'il y a des forces extrêmement puissantes contraires à cela. Et pour être capable d'ouvrir les yeux, parfois sur des choses non spectaculaires que d'ordinaire on ne voit pas, quand on est crispé sur soi, quand on est confondu dans ses projections, déçu, eh bien, il faut justement avoir tellement été mal ou avoir traversé tellement l'impossible que, justement, on en a fini avec les projections. Et donc, peut naître, parce que c'est pas évident, l'espérance qui est donc l'inespéré, sans jeu de mots, l'inattendu. Et c'est ça que j'ai voulu dire, et j'essaierai tout à l'heure peut-être de dire pourquoi, en cette situation si difficile que nous vivons, où sont réactivées plein d'angoisses, en particulier l'angoisse de mort, l'espérance, justement, pourrait peut-être naître.
Alors j'aimerais lire justement ce passage où vous parlez de l'espérance comme l'inespéré. L'espérance surgit comme ce que l'on ne pouvait espérer, comme ce que l'on n'a ni cherché ni attendu. Elle est l'inespéré. Elle advient de manière inopinée après une confrontation avec la mort et au cours d'un combat contre le désespoir que l'on s'apprêtait à perdre, mais que l'on a finalement gagné, parce qu'on a renoncé à ce qui, dans le regard du vaincu, relevait encore de la volonté. Vous venez d'évoquer cet impossible qui est dans le titre, la traversée de l'impossible. Quel est cet impossible qu'il nous faut traverser pour trouver l'espérance, ou plutôt pour qu'elle nous trouve ?
Oui. Alors oui, il faudrait enlever les « il faut », d'une certaine manière. Hein. Mais je vais d'abord... Cet impossible, c'est la nuit du désespoir, ou de l'absence d'horizon. Et je commence le livre par parler de désespoir au niveau personnel et collectif. Au niveau personnel, le désespoir, dont il y a plusieurs formes, c'est justement le fait de ne plus pouvoir respirer, de ne plus pouvoir sentir la possibilité, le possible, de ne plus avoir d'avenir, de sentir que demain sera pire qu'aujourd'hui. Au niveau collectif aussi, c'est la confrontation à quelque chose dont on n'arrive pas à sortir, dont on ne voit pas du tout comment on sortira. Donc c'est vraiment une impasse qui a un coup psychique terrible, hein. Et ça, c'était vraiment important. Deuxièmement, l'universalité du désespoir dont parle Kierkegaard dans un livre magnifique, La maladie à la mort ou Traité du désespoir, donc au milieu du 19e siècle. Eh bien, il dit qu'il y a trois formes de désespoir. Le premier, c'est quand on ignore qu'on a un moi, c'est-à-dire que finalement, on est dans le conformisme, on suit un petit peu les choses, et puis tant que ça va bien, bon, bah, on se rend pas trop compte qu'on a à être, qu'on a à finalement devenir. C'est un existentialiste, hein. L'existant doit devenir, se faire, rien n'est acquis, il y a une sorte d'indétermination au départ. La deuxième forme de désespoir qui va nous intéresser ici, c'est quand on est tellement crispé sur soi, ou du moins que l'on met toute son assiette dans les choses, où on aime quelqu'un, où on veut absolument ce poste, et puis si on ne l'a pas, on est désespéré. C'est qu'on ne veut pas être soi-même, mais se cette crispation, ce désespoir qui suit d'une déception ultime est transformé en une sorte de désamour de soi, mais qui couvait. Donc Kierkegaard dit que le désespoir est toujours un manque de moi, et ce manque de moi s'accompagne paradoxalement d'une crispation sur soi, d'une incapacité à justement se poser dans l'existence sans aimer la vie finalement. Et le troisième, c'est le défi, c'est-à-dire on veut être César ou rien. Et si on n'est pas César, eh bien, on tombe dans une sorte d'hermétisme parce qu'on en voudra au monde entier. Donc il y a cette dialectique destructrice qui inverse la souffrance ou la déception en dégoût de soi, en haine, en désignation de coupable. C'est quelque chose qui résonne aujourd'hui politiquement. Hein, au cœur de l'incertitude ou des échecs ou des déceptions, il y a ces tentations à transformer cette amertume et ses émotions négatives en haine des autres, mais aussi de soi-même. Et donc il y a cette dialectique destructrice à laquelle seule la sortie de soi-même et l'espérance pour Kierkegaard met fin. Alors l'espérance pour lui est indissociable de l'amour de Dieu. Bon, moi ce que j'essaie de montrer, c'est qu'effectivement non seulement il faut prendre au sérieux la souffrance psychique et au niveau individuel comme au niveau collectif, ces situations où il n'y a pas de dessin commun, où il y a une difficulté à avoir un horizon commun, et où justement il y a les tentations d'adhérer à des discours simplificateurs qui dénoncent, qui nomment des coupables et qui font à croire que, eh bien, on peut quand même s'en sortir en ayant des politiques guerrières ou en tout cas en étant agressive, hein, en dissociant, en désignant les ennemis. Hein. Bon, c'est le nationalisme, c'est tous ces récits simplificateurs qui sont très à la mode ou qui marchent, hein, quand il y a des situations comme ça, comme les nôtres, où il y a un effondrement des anciennes certitudes et pas encore les moyens totalement d'avoir un discours cohérent qui pourrait, prenant appui sur ce qui existe ça et là au niveau local ou un petit peu plus, eh bien, peut ouvrir le possible. Mais du coup, voilà, donc du coup, ces périodes, cette dialectique destructrice du désespoir, il faut en être conscient avant de dire que, effectivement, l'abandon de non seulement les solutions classiques qui ne marchent pas et la prise en compte du fait que le réchauffement climatique, pour ne parler que de lui, est trop grand pour nous. C'est-à-dire qu'il suppose la remise en question patiente et radicale de pans entiers de notre éducation et de credos qu'on avait cru valables et qui ont fait le succès de nos sociétés, comme celui identifiant le progrès et la croissance illimitée, et puis la compréhension que le réchauffement climatique, c'est la possibilité de notre impossibilité, c'est-à-dire la possibilité non seulement de notre mort, des atteintes à notre survie et à la survie des autres espèces, mais c'est aussi ça met au jour la précarité de notre civilisation. Et ça, la traversée de cela, traverser, ça veut dire endurer jusqu'au bout, sans justement chercher à se réfugier dans des récits simplificateurs ou sans tomber dans le déni. Le fait de regarder en face et de traverser ça, eh bien, ça permet d'une certaine manière de passer à autre chose. C'est un impossible et en même temps une aporie, et en même temps ça ouvre la porte à une autre manière de voir les choses. Et c'est ça, c'est en tout cas la condition de possibilité pour être capable de lire y compris dans le chaos du présent, dans ses contradictions, donc avec des choses négatives mais également positives, même si elles ne sont pas spectaculaires, et d'être capable de lire dans le présent un avenir qui n'est pas évident mais qui existe. Alors moi, je lui donne un nom. Je lui ai donné un nom dans un livre précédent que je considère comme la fin d'un cycle de 15 ans de travail, Les Lumières à l'âge du vivant. C'est-à-dire être capable de lire au moment où les anti-lumières, au moment où l'extrême droite est partout, au moment où s'effondrent des pans entiers de notre culture en raison de la gravité du réchauffement climatique, être capable de voir qu'il y a des signes avant-coureurs d'un progrès, par exemple le souci de beaucoup de personnes pour l'écologie, pour la cause animale, sujet qui n'était pas du tout à la mode quand moi j'ai commencé commencé cela, le vœu de beaucoup de personnes de vivre autrement, d'avoir plus de convivialité, tout ça, même si ce n'est pas encore spectaculaire, dessinerait une révolution anthropologique, une autre manière de se penser et de vouloir organiser la société, l'économie, la production autrement. Mais évidemment, dire ça, en être persuadé, le sentir, ça ne veut pas dire être hilar, ça ne veut pas dire savoir que ça, cela gagnera, hein, mais c'est en tout cas, c'est d'une certaine manière, pour être capable de penser ça, il faut d'une certaine manière avoir enduré les aberrations de notre modèle de développement, avoir vu jusqu'à la folie la violence extrême de ce modèle de développement, dont pour moi la mise à mort quotidienne des animaux partout dans le monde, et rester si souvent silencieuse, est une des figures. Donc, d'une certaine manière, cette situation actuelle, elle est dramatique. Et en même temps, la seule bonne nouvelle, c'est que, alors qu'il y a encore une décennie, beaucoup de personnes pouvaient être dans l'optimisme, ou du moins dans le déni, c'est-à-dire « tout va très bien, Madame la Marquise, avec la technique, on s'en sortira », ou « c'est pas si grave que ça, on s'en est toujours sorti ». Aujourd'hui, l'extinction de ces raisons d'être optimiste, c'est d'une certaine manière positif, parce qu'il n'y a plus de grand monde qui peut quand même nier la gravité de la situation. Et c'est là que plusieurs voies s'ouvrent, les solutions simplificatrices, mais également cette prise de conscience qui permet seule d'être capable de voir qu'il faut vraiment changer totalement de regard sur les choses. Et là, on pourra faire le lien à ce qui était dit tout à l'heure, à savoir le lien entre la transformation de soi, de sa subjectivité en profondeur, et le changement des structures sociales, et donc l'impact du politique et de l'économie.
Alors justement, si on vous suit, Corinne Peluchon, l'espérance a une dimension politique face aux enjeux d'inégalité et d'injustice, face à l'individualisme et à la peur du déclassement, face au manque d'horizon commun. Que peut l'espérance, comment peut-elle réparer le monde ?
Mais l'espérance peut rien au sens où elle n'est pas là comme quelque chose qui est produit par quelqu'un. S'il y a quelqu'un qui dit « je vous amène l'espérance », il faut vraiment avoir peur. Ou lui dire « bon, faut peut-être que tu consultes ». L'espérance naît quand elle naît. Pourquoi ? Parce que c'est une énergie. C'est le fait qu'on voit que l'avenir est ouvert. Donc c'est quelque chose, on peut la bloquer quand on est justement crispé ou sur soi ou sur d'anciennes solutions. Mais elle naît quand elle naît. Donc ça, c'est vraiment important. Il n'y a personne qui peut l'amener et je dirais même l'incarner. Mais on peut, je rappelle à ce sujet que Charles Péguy, qui a écrit un très beau poème sur l'espérance, la compare à une petite fille que personne ne voit, que personne ne remarque, et qui joue encore avec son bonhomme janvier, son bonhomme de neige. Et elle est, cette petite fille, néanmoins celle qui tire avec elle, avec cette énergie, ses deux sœurs, les deux autres vertus théologales, à savoir la charité comparée à une mère et la foi comparée à une épouse loyale. Donc ça veut dire que l'espérance n'est pas spectaculaire, ce n'est pas de l'héroïsme. Ça, c'est très important, parce qu'on est tellement habitué à des discours héroïques ou bien à des grands chefs, à de l'idéologie qui fige. Et j'ai dit tout à l'heure qu'à la différence de l'espoir, qui est toujours une attente particulière de ceci, cela, eh bien, l'espérance, tout en étant quelque chose qui sent un avenir possible, eh bien, n'est pas déterminée, n'est pas trop précise. Elle peut être annoncée, mais c'est quand même l'idée d'une ère nouvelle. C'est des signes avant-coureurs, mais ce n'est pas comme l'idéologie qui fige le possible et qui est toujours dogmatique. Ça, c'est aussi très important. On est dans l'attente, dans la manière de configurer l'avenir. Mais pour revenir à votre question, pourquoi l'espérance a-t-elle un enjeu, une dimension politique ? Parce que le désespoir a un enjeu, est politique. L'absence de configuration de l'avenir, le sentiment de ne pas avoir d'avenir, c'est, ma foi, ce que éprouvent beaucoup de personnes, jeunes et moins jeunes, mais surtout jeunes, c'est-à-dire le sentiment qu'il n'y a pas de place pour eux. Et du coup, ça, c'est vraiment important. Enfin, j'avais souligné les dangers, justement, de cette absence de dessin, d'horizon commun, parce que justement, ça donne lieu ou au présentisme, ou à le fait de s'enfermer dans la consommation quand on le peut, ou bien l'adhésion à des récits simplificateurs ou à une sorte de bipolarisation. Et moi, j'essaie de faire le lien entre des phénomènes un petit peu différents, mais qui sont, selon moi, qui doivent être compris ensemble. C'est-à-dire que la montée de l'extrême droite, pour parler de cela, et la gravité du réchauffement climatique, et même aussi le fait que malgré la prise de conscience collective maintenant du réchauffement climatique, les personnes tardent à changer drastiquement leur style de vie et même certaines s'enferment dans la consommation. Pourquoi ? Eh bien parce que le réchauffement climatique réactive notre angoisse de mort. Notre angoisse de mort, c'est pas seulement le fait qu'un jour notre individualité va être détruite, c'est aussi le fait que nous sommes il flos et ficats, nous sommes pas grand-chose, nous avons une certaine insignifiance. Tout ça un jour c'est fini, comme dit aussi Kierkegaard. Donc du coup, le réchauffement climatique, ce monde-là qui fait que beaucoup de personnes dans leur travail se sentent jetables, substituables, ça réactive notre angoisse de mort et beaucoup de psychologues à la suite de Ernst Becker, qui a écrit The Denial of Death, disent que cela conduit paradoxalement, quand ce déni de la mort est réactivé, à des comportements de défense. Pour se défendre de cette mortalité et de ce sentiment d'insignifiance, ils accourent derrière un chef charismatique qui va leur faire croire qu'ils auront une sorte d'héroïsme par procuration, qu'ils ne seront pas si insignifiants que cela, et puis ils vont se donner à la consommation d'objets, de gadgets, ou s'enfermer dans le présent. Donc je crois, c'est pourquoi, d'une certaine manière, ceux qui éprouvent de plein fouet ces émotions négatives liées à l'éco-anxiété, qui est une dépression climatique, donc le sentiment d'avoir une vitalité qui s'effondre, la colère, l'abattement, parfois l'indignation, tous ces sentiments négatifs sont certes difficiles, ils peuvent se transformer en dégoût de soi et de la vie, et donc il y a toujours cette dialectique destructrice qui rôde, mais ils font de ceux et celles qui souffrent d'éco-anxiété des sortes de sentinelles qui présentent au monde leur face triste et désabusée pour leur dire l'optimisme et le quiproquo, c'est fini. Hein. Donc d'une certaine manière, mais évidemment c'est très important en cela de rappeler que l'éco-anxiété, à la différence du désespoir classique, a pour origine très noble l'amour du monde et le vœu que l'humanité soit enfin à la hauteur. Donc du coup, il s'agit là encore de voir comment on peut transformer cette énergie lié évidemment inversé à l'éco-anxiété, en engagement. Et de fait, j'ai essayé de décrire ce phénomène tout à fait particulier qui peut surgir, même dans les dépressions classiques, mais assurément dans l'éco-anxiété, quand les personnes souffrant de cela partagent leurs émotions, à savoir le fait que, au fond du trou, pour ainsi dire, on croit qu'il ne reste rien, la subjectivité est dépouillée, mais il reste ce lien ténu liant à la vie. Et c'est vrai que les celles et ceux que j'ai rencontrés et qui font l'expérience de l'éco-anxiété bien après moi qui l'ai fait plus jeune et qui en ai fait aussi d'autres expériences du désespoir, ces personnes disent que, d'une certaine manière, le fait d'avoir changé, de plus croire du tout en certaines choses, d'être devant un mur, fait qu'elles regardent le caractère précieux de la convivialité, de la vie, du vivant, et que la beauté de la nature devient comme une nourriture. Hein, et c'est d'une certaine manière, si la prise de conscience de l'intensité effroyable de la souffrance animale et du nombre de vies sacrifiées a été pour moi un traumatisme qui m'a projeté de l'autre côté du miroir et j'en suis jamais revenue, c'est aussi où je me débarrassais de certaines illusions que cette réalité-là a pu m'atteindre à ce point. Je crois que là aussi, ça c'est le neuf dans notre société. Je crois qu'on n'a plus besoin de consolation. L'espérance n'est pas une consolation. C'est ça que je veux dire. D'une certaine manière, il faut regarder en face les choses et ça ne veut pas dire que ça va nous amener au nihilisme ou au rien, mais ni à une sorte de renaissance, attention, on était mieux, ce qui ne tue pas rend plus fort, non merci, hein. Mais ça amène à regarder tout à fait autrement le monde Et d'une certaine manière, ça peut se convertir en engagement, en amour du monde, qui est pour moi une dimension qui donne un rapport à l'incommensurable, en soi, une transcendance de l'immanence, hein, le monde commun qui nous accueille à notre naissance, disait Hannah Arendt, et qui survivra à notre mort individuelle, donne une épaisseur à notre vie. Et c'est vrai que la prise de conscience de sa vulnérabilité, de sa condition engendrée, mortelle, vulnérable, finalement est une voie de moi ce que j'appelle la transdescendance, ce rapport à une transcendance qui n'est pas au-delà de nous, mais qui est finalement devant nous et qui nous dépasse, ce monde qui nous accueille à notre naissance, fait du patrimoine naturel et culturel, et que peut-être il s'agit de... qu'on peut vouloir préserver ce que j'appelle, c'est ça la considération, et c'est ça c'est ce que j'essaie de décrire. Donc c'est pas l'espérance qui arrive comme une sorte sur son cheval blanc, hein. C'est pas l'idéologie, mais c'est une transformation d'une radicale prise de conscience à un moment où justement il faut plus chercher de consolation, et ça permet non pas d'être dans une radicalité au mauvais sens du terme, violente, mais de faire un inventaire, voyant ce qu'il s'agit d'ores et déjà de supprimer, d'abolir, et ce que l'on peut conserver, voire préserver.
J'aimerais lire un passage de votre ouvrage. « La conscience de l'effondrement est inséparable de la reconnaissance de la solidarité existant entre tous les êtres. Cette expérience d'une communauté de vulnérabilité génère un sentiment d'humilité qui est la condition de la coopération. Elle favorise l'entraide, l'action, l'innovation, incitant celles et ceux qui s'appréhendent comme des survivants à faire de leur mieux pour freiner la dégradation des écosystèmes et défendre la valeur de la vie, ainsi que sa beauté. » Corinne Peluchon, j'aurai le plaisir de recevoir demain à ce micro l'urbaniste Sylvain Grisot, qui viendra nous parler de son ouvrage « Redirection urbaine sur les chantiers de l'adaptation de nos territoires ». Y a-t-il une question que vous aimeriez lui poser ?
Alors d'abord, je dirais que j'aime bien ce titre, Redirection urbaine, ça fait très volontariste, j'aime bien. C'est bien parce que les urbanistes ont un rôle majeur. Alors moi, je dirais juste, j'espère vous pensez aussi aux animaux, aux pigeons, aux rats, que souvent on élimine, on éradique, à tous ces animaux appelés liminaires, qui ne vivent pas avec nous et qui s'invitent à proximité de nos jardins, de nos villes, et qui cohabitent avec nous, et que longtemps on a oublié, qu'on oublie un petit peu moins maintenant. Voilà, c'est juste la question que je poserai. Que faites-vous des animaux dans les villes ?
Merci. Je vais maintenant donner la parole au public après une courte pause musicale, et pendant ce temps, vous pourrez préparer les questions que vous brûlez de poser à Corinne Peluchon.
Je peux enlever ça ?
Radio Anthropocène. À l'écoute du changement global.
Puedo desaparecer y en el infinito ver. Puedo desaparecer y en el infinito ver.
Alors, on va accueillir une première question du public à Corinne Pelluchon.
Bonjour. Donc, ma question, c'était pour vous, Corinne Pelluchon, la question de la santé mentale, est-ce qu'elle est essentiellement corrélée à notre environnement qui subit une crise, ou est-ce que c'est une question existentielle qui existe depuis plus longtemps et qui vit aujourd'hui une forme d'accélération ?
C'est une question très subtile. Alors, je pense que, bon, d'abord, je ne suis pas psychiatre, hein, je ne suis pas psychologue, donc je ne suis pas compétente, mais je crois qu'il y a... la santé mentale, elle est de toute façon affectée par les conditions de vie. On ne peut pas séparer le psychisme de tout ce qui se passe aujourd'hui au niveau géopolitique, au niveau environnemental. Donc, et puis, je crois que vraiment, être dans un monde où la terre se dégrade, où parfois... les villages qu'on avait vus ou les paysages de son enfance disparaissent et deviennent des parkings, ça a de quoi perturber énormément, sans parler de la crainte de l'avenir et puis de la honte qu'on peut ressentir et de l'impuissance qu'on ressent comme individu quand on voit les dégradations et le fait, la maltraitance animale. Donc moi, je crois que il doit y avoir beaucoup de choses qui affecte psychiquement vraiment les personnes. Mais évidemment, la santé mentale, les maladies, les psychoses, bon, ben c'est en plus, quoi. Et enfin, la question existentielle, ça tombe bien, parce que je viens de finir un livre sur l'existentialisme, en partie. Mais je crois que l'écologie, c'est ça qui est très intéressant. L'écologie, ce n'est pas seulement... la lutte contre le réchauffement climatique et l'érosion de la biodiversité, donc la dimension environnementale de l'écologie. C'est bien sûr aussi la dimension sociale de l'écologie, comme disait Guattari, c'est-à-dire le partage des nourritures, hein, des paysages avec les humains et les autres qu'humains. Donc c'est la question du travail, de l'organisation, de la mode de production, etc. Et des répartitions du fardeau de la pollution et de la dépollution. Mais c'est aussi... Elle a une dimension subjective, existentielle. C'est une autre manière de se penser et de penser son rapport aux autres vivants, en touchant aussi ce qu'on a en commun avec eux et puis les différences qu'on a avec eux. Donc je crois que c'est vraiment une question très profonde. Et c'est pourquoi ce qui se passe aujourd'hui a atteint plusieurs couches du psychisme, pas seulement l'intellect, mais aussi les émotions, mais aussi des couches archaïques du psychisme, qui sont travaillés par la question animale, par la question du rapport au paysage, par la question des lieux. Et ça, je crois que c'est vraiment très important. Donc, il y a les deux dans votre... je crois, oui, que la santé mentale, elle est liée aussi donc, à cette dimension-là.
Merci. Deuxième question du public.
Je voulais demander quel est votre parcours et comment vous êtes arrivé à vos recherches sur l'espérance, aussi par rapport à votre expérience de éco-anxiété entre guillemets précoce que vous avez racontée un peu avant.
Alors moi, d'habitude, je fais des livres plus gros, plus épais, j'ai une pensée très systématique, donc voilà. Et de temps en temps, entre deux gros livres de 300 pages, qui sont plus neutres, si je puis dire, mais tout aussi engagés, j'écris des livres pour un plus grand public, sans notes en bas de page. Et là, il me semblait que cette notion d'espérance était importante, parce que je voyais autour de moi, j'avais rencontré quelques activistes, je voyais bien leur malaise, et puis j'avais une amie dont le fils avait passé un an dans sa chambre à fumer des cigarettes en arrêtant l'université et tout ça, et elle l'amenait chez son psychiatre, et je lui disais, tu sais, je crois que c'est une sentinelle, c'est pas du tout, il n'est pas forcément malade de psychose, c'était quelqu'un de très très brillant, mais qui supportait plus notre monde... Et puis en plus qui était devenu végane, donc je comprenais très bien. Voilà, donc du coup, j'entendais aussi des personnes qui avaient ce qui m'agaçait profondément. Oui, il faut être optimiste. C'est un peu comme lorsque quelqu'un est dépressif, on lui dit, oh, mais t'as tout pour être heureuse, ma fille. Bon, non. Il y a une traversée de l'impossible, il faut voir. Donc du coup, je me disais, ben moi, j'ai les moyens, je crois, de parler de l'espérance, de parler... de ce que c'est que l'éco-anxiété, mais aussi du manque d'avenir et du sentiment de suffoquer, voire de la tentation de la destructivité qui est inhérente au désespoir, parce que c'est un peu tabou, hein, le désespoir, il peut conduire au suicide, pour parler franchement. Donc du coup, j'ai ressaisi un petit peu mon expérience, et puis j'ai essayé de trouver le style pour écrire un ouvrage un peu plus grand public, parce que je crois que de temps en temps, il faut le faire. Et donc, j'ai ressaisi en 6 chapitres des choses. Et puis bon, c'est pas que désespéré. Au début, je commence par ça, mais ça va vers quelque chose. Et puis le dernier paragraphe est une sorte d'ode à la féminité, à la ménopause, vous voyez, donc comme quoi, donc ça finit de façon... Oui, parce qu'en allemand, je l'écris en Allemagne, j'étais en Allemagne, en ménopause, ça se dit Wechseljahre, qui veut dire année de changement, donc il y a une idée de... C'est la fin, bon, il y avait un journal dans le Zeit qui comparait ça s'appelait In den Wechseljahren, nous sommes dans les années de changement, qui comparait le réchauffement climatique au bouleversement que les femmes éprouvent à la ménopause, où ça chauffe, c'est froid, enfin bref, quoi, on ne maîtrise rien. Et moi, je me disais, j'ai fait mon petit récit féministe, si je puis dire, bah, finalement, c'est au lieu de se sentir de trop, ou de sentir que cette fin d'un monde, fin de la maternité, la fin du monde, il faut considérer qu'il y a une dynamique de métamorphose et que c'est positif. Donc le livre commence par Rilke, hein, l'enfermement, puisque le désespoir est un enfer qui me ment, je joue, c'est une prison, mais il y a un leurre. Et ça, il faut le dire, il ne faut pas enjoliver le désespoir, qui, comme je le dis, conduit à la destructivité, au suicide ou à la haine des autres, hein, parfois. Mais il y avait aussi, donc voilà, il y a aussi, à la fin, je finis plutôt bien, avec quelque chose d'un petit peu, pas subversif, non, mais un peu, voilà, qui renverse un peu les conceptions qu'on a, les femmes, bon, finalement, voilà, la minette, la mère, et puis après, elle serait bonne à acheter. Non, mais oh. Donc, du coup, voilà, je trouvais que c'était pas mal de finir comme ça, mais c'est... Donc, ce parcours, c'est... Voilà, je crois que de temps en temps, je pense Michel est d'accord avec moi, on fait des livres de fond, et de temps en temps, on peut faire des livres un peu plus poétiques, plus lisibles pour un grand public, et moi, je peux parler, je crois, de choses... De un peu qui se touche la sensibilité, hein, parce que je l'ai vécu aussi. Mais je parle pas de ma vie, hein. J'ai fait un avant-propos où c'est l'éditrice, en plus j'avais juste dit 2-3 lignes, oui, ben, je peux en parler parce que j'ai connu ça. Elle me dit un peu plus. Moi j'aime pas, je suis très pudique, j'aime pas raconter ma vie, on n'est pas là pour ça en philosophie. Mais alors j'ai fait 15 lignes, alors tout le monde après m'a dit, ah alors c'est vrai que vous avez désespéré. Bon, c'est pas le propos, j'ai juste l'avant-propos, puis après c'est un texte où j'essaie de... Voilà, mais je pense que c'était utile, voilà. C'est ça. Je savais que ce livre, il fallait que je le fasse, donc je l'ai fait entre 2 gros livres, plus ambitieux. Mais... Et là, j'ai une autre idée de livre comme ça, de temps en temps, de 150 pages, sur des sujets un peu... Voilà, parce qu'il faut reconnaître aussi, et je finirai là, que dans notre milieu universitaire, tranquille, quoi, souvent, bah, on ne parle pas de ces choses-là, hein, du désespoir, ou alors on met la larme à l'œil, mais ce n'est pas crédible. Hein, on ne parle pas du désespoir ou de l'espérance comme ça. Donc moi, je savais, j'avais dit à Lydia, je lui avais dit, ouais, je vais te faire un livre sur l'espérance et le désespoir. Puis je récite le poème de Rilke. Et elle me dit, bon, signe tout de suite. Je lui dis, OK.
Merci, Corinne Peluchon, d'avoir su raviver l'espérance en dépit de tout, même de la ménopause, cet après-midi sur Radio Anthropocène. On aura le plaisir de vous écouter et de vous voir plus longuement ce soir à partir de 20h au Musée des Beaux-Arts, Place des Terreaux, dans le 1er à Lyon, pour la soirée d'ouverture du festival « Vulnérabilité, dignité et engagement » en compagnie du romancier Pierre Ducrozet et du géographe Michel Lussault. Quant à nous, on se retrouve demain, jeudi 21 mars à 16h pour un nouveau book club en direct et en public avec mon invité, l'urbaniste Sylvain Grisot, autour de son ouvrage « Redirection urbaine sur les chantiers de l'adaptation de nos territoires ». Si vous êtes dans les parages demain matin, venez également assister à la masterclass de Sylvain Grisot, ici même au Collège Truffaut, donc c'est à 10h. Et maintenant, sur Radio Anthropocène, on s'engage avec Anciela, une association qui soutient les acteurs du changement et aide les citoyens à s'engager. Merci pour votre écoute. Bon après-midi à tous et à toutes sur Radio Anthropocène.
Radio Anthropocène, à l'écoute du changement global.